Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, je vais démarrer ce message avec une petite histoire qui va peut-être vous choquer, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. En fait, j'ai entendu parler d'une dame, j'ai entendu son témoignage, et elle racontait qu'elle avait été abordée dans la rue par l'église de Satan aux États-Unis. En fait, ils étaient en train de faire, entre guillemets, de l'évangélisation, bien sûr on ne peut pas appeler ça comme ça, mais ils étaient en train de recruter des adeptes. Et donc, elle leur a dit, non mais moi, jamais de ma vie, je vais adorer Satan. Et ils lui ont dit, mais en fait, on n'adore pas Satan. Donc elle était hyper surprise, et comment ça, vous adorez pas Satan, vous êtes l'église de Satan. Ils lui ont dit, en fait, pas du tout. Nous, notre enseignement, il est basé sur le fait de s'aimer soi-même en premier, puis d'aimer les autres. Du coup, ça paraît plutôt pas mal comme ça, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, s'aimer soi-même, s'aimer les autres. Sauf qu'en fait, il y a quand même un petit détail qui manque dans l'équation. Et ça me fait penser à ce que Charles Spurgeon a dit. Il dit, le discernement, ce n'est pas connaître la différence entre le vrai et le faux, mais connaître la différence entre le vrai et le presque vrai. Parce qu'en fait, s'aimer soi-même et aimer les autres après, Jésus, il en a parlé, mais dans un sens un petit peu différent. Que dit la Bible à ce sujet? Jésus, il a dit dans Matthieu au chapitre 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc la Bible, elle n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'aimer, mais elle donne un ordre. Tout doit découler de Dieu. D'abord, tu adores Dieu, et puis tu es capable d'aimer les autres et de t'aimer toi. Et ce matin, on va parler de l'adoration. On va parler de l'adoration, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et on va aussi parler de la louange. On va voir, est-ce que ce sont des synonymes ou pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les humains ont été créés par Dieu pour être des adorateurs. On ne peut pas diviser les gens en deux groupes, ceux qui adorent et ceux qui n'adorent pas. On adore tous quelque chose. Et si vous avez lu le livre « Les idoles du cœur » de Tim Keller, il ne fait que d'en parler. On adore tous quelque chose. L'adoration, ce n'est pas optionnel pour les êtres humains. Ça fait partie intégrante de notre nature. On est créé pour adorer. Et si on n'adore pas Dieu, alors forcément, on va adorer autre chose. Soit on adore celui seul qui est digne de notre adoration, soit on va adorer des substituts, des idoles. Alors l'église de Satan, elle préconise de s'adorer soi en premier, mais la Bible dit d'adorer Dieu en premier. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, mais ça veut dire, et Tim Keller le résume très bien, que l'adoration, selon la Bible, elle réattribue à Dieu, l'adoration selon la Bible réattribue à Dieu lui-même la valeur ultime de notre vie. L'adoration, selon la Bible, réattribue à Dieu lui-même la valeur ultime de notre vie. Mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en pratique ce verset dans Matthieu? Comment est-ce qu'on fait pour adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Est-ce que vous avez l'impression que vous y arrivez, vous? Ben non, mais moi non plus. Mais ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est que c'est impossible sans Jésus, sans le sacrifice qu'il a fait à la croix, sans le Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous sommes créés pour adorer Dieu. Ce n'est pas une activité qu'on fait. Ce n'est pas une activité qu'on fait rentrer dans notre agenda. C'est notre identité. Alors ce matin, je vous propose le plan suivant. Sans adoration, pas d'identité. On verra que être un adorateur, c'est notre identité. Et on verra la définition de l'adoration. Et puis dans un second temps, on abordera le fait que sans adoration, il n'y a pas de louange. Et on parlera du fruit de nos lèvres et des actes d'amour. Sans adoration, pas d'identité. Tout au long de la Bible, on est enseigné qu'en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, l'adoration fait partie du but de notre vie. On le voit dans Éphésiens, que j'ai affiché là, au chapitre 1, les versets 5 et 6. « Par amour, il nous a destinés d'avance à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, conformément au bon plaisir de sa volonté, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Nous sommes choisis pour être ses enfants afin que nous célébrions la gloire de sa grâce accordée en Jésus. Notre premier appel en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être des célébrateurs, de vivre la célébration de la gloire de la grâce de Dieu. Autrement dit, de vivre en adorateur. Et que dit la Bible sur la célébration ? La Bible en parle tellement. Et dans leur livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Manuel pour la conduite du culte », qui a été écrit par Kevin Stoffer, le papa de Cathy, et Philippe Viguier, ils ont carrément intitulé une section de leur livre « L'obligation de célébrer ». L'obligation, pardon, de faire la fête. Et c'est vrai, parce que quand Dieu choisit son peuple, il ne lui donne pas le choix. On le voit dans le psaume 81, les versets 3 à 5. Est-ce que je l'ai mis ? Vous voyez où c'est petit ? Ça va ? Sonnez de la trompette au début du mois, au moment où la lune est pleine, le jour de notre fête. Car c'est une ordonnance pour Israël. C'est un droit du Dieu de Jacob. Il a ordonné cela à Joseph quand il sortit du pays d'Égypte. Dieu remplit son calendrier de fêtes hebdomadaires, les sabbats, de fêtes mensuelles, les nouvelles lunes, et des fêtes annuelles, comme la Pâque ou la fête des tentes. Et à trois reprises dans Éphésiens, Paul insiste sur le fait que le peuple de Dieu est élu pour célébrer sa gloire. Il y a plein d'autres versets si vous n'êtes pas encore convaincus. Dans Ésaïe, au chapitre 43, verset 7, « Tous ceux que j'ai appelés de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. » On a été créés pour la gloire de Dieu, pour lui donner gloire, c'est-à-dire montrer, révéler sa grandeur dans tout ce que nous faisons ou disons. Autrement dit, vivre en adorateur. Encore un verset, toujours dans Ésaïe, chapitre 43, verset 21. « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Nous, avec tous les autres chrétiens du monde, on forme le peuple de Dieu. Et on est appelé à être un peuple qui publie les louanges de Dieu. Publier ses louanges, c'est dire qui il est haut et fort. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » En fait, ce verset dit exactement la même chose que le verset précédent. On est appelé à annoncer les vertus de Dieu, ses qualités, ses attributs, c'est notre appel. On ne peut pas passer à côté si on a été sauvé. Alors c'est quoi l'adoration ? Je vais un petit peu trop vite. Si on regarde dans le dictionnaire Larousse, on voit que adorer, c'est rendre des honneurs à Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que selon les différentes églises qu'on fréquente, on a tous un petit peu notre propre définition de l'adoration. Selon un peu ce qu'on ressent. Et souvent, ce qu'on ressent, c'est que l'adoration, c'est les chants qui sont, vous savez, un petit peu plus calmes, un petit peu plus profonds, quand on médite plus, qu'on contemple plus Dieu. Et que du coup, la louange, pour le coup, ce serait plus quand les chants, ils bougent un petit peu plus. Alors, c'est pas entièrement faux, c'est presque vrai, hein, comme dirait Spurgeon, mais si on regarde ce que la Bible dit, en fait, l'adoration, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et je pense qu'une des clés pour comprendre l'adoration, c'est de comprendre, comme on l'a déjà dit, que ça fait partie de notre identité, mais aussi que pour nous, en tant que chrétiens, il s'agit de notre posture. Alors, le verbe « adorer » dans l'Ancien Testament, en hébreu, il se dit « ishtahawa ». Et dans le grec, « adorer », c'est « proskunein ». Et les deux veulent dire « se prosterner ». C'est-à-dire, quand on se prosterne devant quelque chose, on est en train de dire que cette chose est plus grande que nous, qu'on donne allégeance à cette chose, qu'on est plus petit, c'est-à-dire donner la première place. Et lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on se courbe devant Dieu, on est en train de lui dire « Seigneur, tu es au-dessus de moi, tu as la première place. Et donc, vivre en adorateur, c'est vivre dans tout ce qu'on fait en donnant la première place au Seigneur. Et la Bible dit que tout ce qu'on fait dans la vie peut être une adoration quand on le fait en lui donnant la première place, quand on le fait pour sa gloire. On le voit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites-le pour la gloire de Dieu. » Moi, je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue avec l'oncle de Nico. Je crois qu'on n'était même pas encore mariés. Et il avait un oncle qui était vraiment très, très... Alors, comment dire ? Je ne vais pas dire le mot, mais... un peu dur dans sa manière de parler. Et il disait qu'on devrait toujours prier en étant à genoux. Et en fait, il disait que ceux qui ne priaient pas à genoux, bon, ils étaient dans le faux. Je me rappelle que Nico, dans toute sa douceur, il dit « Mais écoute, tonton, tu sais, être à genoux, c'est aussi une posture du cœur. » Et je suis d'accord avec Nico, mais je crois aussi que, je ne dis pas qu'on devrait toujours prier à genoux, mais je pense que de l'expérimenter de temps en temps dans notre vie de prière, de se mettre à genoux et de se dire « Waouh, je me courbe avec mon corps devant celui qui est au-dessus de moi », ça peut peut-être nous parler de ce que c'est vraiment cette posture d'adorateur, du fait de dire à Dieu « Mais je te donne la première place, je me courbe devant toi ». Et la Bible parle de cette posture et elle l'appelle le culte raisonnable. Vous vous rappelez peut-être de ce verset. Selon les traductions, c'est soit le culte raisonnable, soit le culte spirituel. Et dans certaines traductions, ils appellent ça le vrai culte. Et donc, c'est dans Romains 12, verset 1. Est-ce que je l'ai mis ? Oui. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Et dans Parole de vie, dans une autre traduction, il est dit « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Donc, un culte raisonnable ou un culte spirituel ou un vrai culte, c'est offrir notre vie entière à Dieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le mot culte en grec, ça vient du mot latreia. Et ça veut dire quoi ? Adoration. Donc l'adoration, c'est offrir notre vie entière à Dieu. C'est notre culte. John Piper, c'est un écrivain assez célèbre dans le monde chrétien que vous connaissez sûrement, résume très bien ce verset en disant ceci. La véritable adoration consiste à estimer ou à chérir Dieu par-dessus tout. La véritable adoration consiste à estimer ou chérir Dieu plus que tout. Alors, estimer Dieu, bah, c'est reconnaître sa valeur immense. Chérir Dieu, c'est éprouver une affection profonde et sincère pour lui. Et par-dessus tout, eh ben, c'est placer Dieu au sommet de toutes nos priorités, de tous nos désirs, de toutes nos affections. Et il a écrit un super livre, John Piper, que je vous encourage à lire, qui s'appelle « L'adoration et la prédication ». Et il explique que l'adoration, elle doit être éclairée par la vérité. Elle repose en fait sur une compréhension correcte de qui est Dieu. Et il cite Jean 4 qu'on a abordé aussi ce matin pendant la présidence où Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc ça signifie que l'adoration, elle doit être guidée par la vérité qui est révélée dans les Écritures et non par ce qu'on imagine ou par ce qu'on ressent par rapport à Dieu. En fait, notre connaissance de Dieu, selon la vérité de la parole de Dieu, c'est ça qui va entraîner notre adoration. Et donc, si on adore notre propre image de Dieu ou notre propre compréhension de ce qu'est Dieu, ou Dieu comment on veut qu'il soit, eh bien du coup, ce n'est pas de l'adoration. On n'est pas en train de l'adorer pour qui il est. Donc plus on va connaître Dieu, plus on va l'adorer, et plus l'adoration va venir du cœur en réponse à ce que nous connaissons de lui. Par exemple, si un jour ma fille, elle vient me voir Et elle me dit, maman, je suis tombée amoureuse d'un garçon génial. Là, mon mari dit, oulala, pas tout de suite. Et moi, je me dis, bah, c'est cool, elle est tombée amoureuse d'un garçon génial. J'imagine que c'est un garçon que j'aimerais bien. Mais en fait, au fur et à mesure de notre discussion, je me rends compte qu'en fait, elle est tombée amoureuse de lui uniquement en se fiant à son compte Instagram. Et du coup, bah, vous êtes d'accord avec moi, sur un compte Instagram, on poste ce qu'on veut de nous. En général, on se montre sous notre meilleur jour, sous notre meilleur profil. Et du coup, forcément, un compte Instagram, c'est pas assez pour connaître une personne véritablement. Et du coup, ma fille, si elle tombe amoureuse de ce garçon en se basant uniquement sur son compte Instagram, forcément, elle va tomber amoureuse d'une image complètement édulcorée de ce garçon. C'est presque lui, mais c'est pas lui. Et Dieu ne veut pas qu'on adore une image presque vraie de lui. Il veut qu'on l'adore pour qui il est vraiment. Donc notre adoration doit être éclairée par la vérité. Notre adoration doit aussi engager le cœur. C'est pas juste un acte intellectuel, mais ça engage notre cœur. Et Jésus, il en parle dans Matthieu 15, au verset 8 et 9, quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des règles qui sont des commandements humains. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des règles qui sont des commandements humains. » En gros, notre adoration, elle peut être complètement vaine, c'est-à-dire ne servir à rien, peanuts, inutile, sans résultat, ne pas avoir de valeur, si elle ne vient pas d'un cœur sincère. Par exemple, si je dis à Nico tous les jours que je l'aime, mais que je ne le respecte pas, que je ne l'écoute pas quand il me parle, que je ne passe pas du temps avec lui et que je ne lui montre pas de la bonté, mes paroles, elles sont vaines, elles sont creuses pour lui, elles n'ont pas d'effet sur lui. Il ne peut pas me croire, ce n'est pas possible. Du coup, c'est pareil avec mon adoration. Si elle n'est que superficielle, qu'elle est faite que de mots que je ne pense pas et que je ne vis pas, elle est vide, elle est vaine, elle est sans effet. Dieu ne peut pas croire ce que je dis. Mon adoration, elle doit être fondée sur une expérience intérieure, basée sur ce que je connais de Dieu et marquée par des émotions telles que la joie, la reconnaissance, l'émerveillement devant la grandeur de Dieu. Et forcément, quand on vit cette adoration-là, elle ne peut rien faire d'autre que de déborder dans ma vie quotidienne. Et ça arrive à une troisième chose sur notre adoration, c'est que du coup, notre adoration se manifeste dans la vie quotidienne. Quand on connaît Dieu réellement, selon la Bible et dans notre relation quotidienne avec lui, et qu'on vit cet émerveillement et cette adoration intérieure dans notre cœur, eh bien ça devient visible à l'extérieur. Un petit peu comme Bifidus actif, vous vous rappelez ? Bifidus actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont trop jeunes, mais c'était une publicité qui était hyper célèbre à mon époque. Et du coup, c'était pour un yaourt. Et ça mettait en avant les bienfaits sur la santé digestive qui, du coup, découlaient sur notre apparence extérieure. Et bien, c'est un peu l'idée que ce qui est nourri dans le cœur finit par se refléter dans notre vie extérieure, dans nos comportements, dans notre manière d'agir et même dans notre manière de servir le Seigneur. Et ça, c'est la louange. Et donc j'arrive à mon deuxième point, sans adoration, pas de louange. Je reviens à John Piper. Il résume la louange de cette manière. Il dit que la louange, c'est l'expression extérieure de l'adoration intérieure. Du coup, elle peut se manifester par des chants, par des mots, par des prières, par des actions, et elle est souvent verbale et publique. On va dire du bien de Dieu, on va annoncer ses œuvres. Et du coup, si on résume la différence entre l'adoration et la louange, eh ben, on pourrait dire que l'adoration, c'est l'affection de notre cœur envers Dieu, et la louange, eh ben, c'est l'expression de cette affection. Et la Bible en parle encore mieux que Piper, encore mieux que moi. On le voit dans Hébreux au chapitre 13. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qu'il reconnaisse comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Donc, si on reste sur ce verset, on voit que le sacrifice de louange, c'est le fruit des lèvres qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et les actes d'amour, faire le bien, partager. Et l'auteur des Hébreux dit que ces deux choses sont des sacrifices. Alors ça fait écho au sacrifice qui était demandé dans l'Ancien Testament et qui était au centre de l'adoration. En fait, les gens, ils offraient un bœuf ou une chèvre et ils montraient que Dieu était précieux pour eux en faisant ça. Alors aujourd'hui, on sait que la rédemption nous est offerte au travers du sacrifice de Jésus et au travers de lui, le fruit de nos lèvres et les actes d'amour deviennent des sacrifices de louange. Mais uniquement si elles découlent d'un cœur qui est rempli d'adoration. Parce que comme on l'a vu, sans adoration, pas de louange. Et donc la louange découle de notre cœur d'adorateur. Et donc si on revient à notre verset d'Hébreux 13, je vous propose qu'on parle d'abord de la louange dans le terme « fruit des lèvres qui confessent son nom », le fruit des lèvres. En fait, dans la Bible, il y a 7 mots principaux qui sont utilisés pour parler de la louange en hébreu, en tant que fruit des lèvres. Et je vous propose de méditer sur quelques-uns de ces mots, parce que je trouve que, en fait, quand on les explore, ça peut aussi nourrir notre louange, notre vision de la louange. Le premier mot, c'est « Tehillah ». J'ai une copine qui a appelé sa fille comme ça, je trouve ça magnifique. Ça veut dire « une chanson de louange » ou « chanter les louanges de Dieu ». Et du coup, pour vous donner un exemple d'un psaume où c'est le mot « Tehillah » qui est utilisé pour louange, on le voit dans le psaume 22, verset 3. « Mais toi, tu es saint, tu sièges au milieu des Tehillah d'Israël, au milieu des louanges d'Israël. » Autrement dit, des chants de louange. On le voit aussi dans le psaume 34. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Tehillah sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Chanson de louange, chanter des louanges de Dieu. Un autre mot qui est utilisé, c'est « shabak ». Et ça veut dire s'écrier en louange, célébrer, crier d'une voix forte. Et ça, on le voit dans le psaume 9. « Je te louerai, c'est Shabbat, éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Ensuite, il y a le mot « yada ». Et ça veut dire remercier et louer avec les mains tendues, avoir les mains ouvertes devant Dieu. Et ça, c'est un petit peu cette image d'exprimer notre confiance à Dieu, notre humilité, notre place de créateur qui est créature qui est dépendante du Créateur. Et ça, on le voit dans le psaume 63, au verset 4. « Ainsi je te bénirai, Yada, toute ma vie. Je lèverai, Yada, mes mains en ton nom. » Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Il y a aussi le mot « barak » qui veut dire bénir, s'agenouiller, dire du bien de Dieu en reconnaissant sa supériorité. Et du coup, on le retrouve dans le psaume 134, les versets 1 et 2. « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel qui êtes dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez Barak, l'Éternel. » Et enfin, le dernier mot que j'ai choisi d'expliciter ce matin, c'est le mot « halal ». Alors, c'est un peu bizarre de voir comme ça, mais en fait, c'est la source du mot « alléluia ». Et « alléluia », ça veut dire s'enthousiasmer, vanter, dire avec extravagance, faire des folies, faire briller, mettre sous le feu des projecteurs. Et ça, c'est utilisé plus de 165 fois dans la Bible. On le voit par exemple dans le psaume 149, verset 3, qui loue son nom avec des danses, qui lui chante des cantiques avec le tambourin et la harpe. Mais aussi dans l'histoire de David, vous savez, quand il danse devant l'Éternel et que sa femme, elle le méprise parce qu'il a l'air complètement fou. C'est dans 1 Chronique au chapitre 15. « Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et en voyant le roi David sauter et danser, halal, devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. » Donc halal, c'est vraiment louer Dieu avec extravagance, avec notre corps, avec des danses, toutes ces choses-là. Donc ça peut peut-être nous faire méditer tout simplement sur d'autres manières de louer le Seigneur, de le bénir, de lui donner toute la gloire. Et je continue et je termine presque ce message avec la deuxième phrase dans le verset qui parle que la louange se retrouve aussi dans les actes d'amour. Si je reviens en arrière, je vous montre le verset. Donc on voit que le sacrifice de louange, c'est le fruit de lèvres qui le reconnaissent comme Seigneur. Et puis ensuite, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Donc la deuxième forme de louange, ce sont les actes d'amour. Et donc selon les traductions, ce verset parle de faire le bien ou la bienfaisance. Et donc faire le bien aux autres, la bienfaisance, ça peut inclure par exemple aider les personnes qui sont dans le besoin, encourager quelqu'un moralement ou spirituellement, servir sans attendre et être, par exemple, attentif aux personnes qui sont en souffrance. Et du coup, c'est une attitude de bonté qui est active et qui va refléter l'amour de Dieu. Le verset parle aussi de la libéralité, de partager. C'est la générosité, en fait, surtout en ce qui concerne les biens matériels ou les biens financiers. Et donc, ça signifie partager ce qu'on possède avec ceux qui en ont moins. Donner, par exemple, pour soutenir l'Église ou les missions ou les personnes qui sont dans les difficultés, et être détaché de l'argent pour mieux le mettre au service de Dieu. Donc c'est un esprit de don qui est libre et joyeux et qui ne donne pas par obligation, mais par amour. Et ça, c'est aussi la louange. Je conclue. J'ai trouvé une phrase qui résume vraiment bien ce que c'est l'adoration et la louange. L'essence intérieure de l'adoration est de connaître Dieu véritablement, puis de répondre de tout son cœur à cette connaissance en valorisant Dieu, en chérissant Dieu, en savourant Dieu, en étant satisfait de Dieu par-dessus toute chose terrestre. Et ensuite, cette profonde et joyeuse satisfaction en Dieu déborde en actes de louange visibles, venant des lèvres, et en actes d'amour visibles dans le service des autres, pour l'amour de Christ. Je ne crois pas ce qu'on prie. Seigneur, on a besoin de toi. On reconnaît ce matin qu'on ne peut pas t'adorer comme tu le mérites sans être complètement dépendant du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sans reconnaître que, en fait, c'est impossible par nos propres forces, Seigneur. Parce que tu veux tout de nous. Tu veux la première place dans chaque partie de nos vies. Tu veux qu'on te donne gloire, Seigneur, à chaque instant, dans tout ce qu'on fait. Et Seigneur, on reconnaît ensemble ce matin qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Merci, Seigneur, d'être mort à la croix pour ça. Merci d'être mort pour ça et merci pour l'Esprit Saint que tu mets en nous et qui nous aide, Seigneur, à te louer comme tu le mérites. On prie ce matin, Seigneur, que tu crées en nous un cœur d'adorateur, un cœur qui te chérisse, un cœur qui soit satisfait entièrement en toi, un cœur qui t'honore, Seigneur, par-dessus toute chose terrestre. Et Seigneur, on veut que ce soit seulement de là que découle notre louange, de ce cœur d'adorateur. Seigneur, pour que le fruit de nos lèvres et pour que nos actes d'amour, Seigneur, te reflètent dans le monde et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.